dans cette nouvelle émission de notre série consacrée à la thématique de l'histoire des Vosges et l'histoire d'Épinal. Nous sommes, et c'est une tradition, aujourd'hui en compagnie de Jacques Grasser. Bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes agrégé d'histoire et que c'est avec vous nous faisons cette découverte de cette deuxième série consacrée, donc cette fois-ci aux fortifications qui entourent le territoire spinalien. Et nous étions au sortir de la guerre de 1870 et des conséquences. Vous nous disiez la semaine dernière que ce sont des conséquences qui sont assez énormes, mais aussi qui vont impliquer la création, qui vont susciter la création de nouvelles choses, du coup.
Oui. Alors, un mot encore sur les effectifs. Si, comme je le disais, les effectifs dans l'industrie sont des effectifs énormes, y compris pour les chemins de fer, hein, qui est une industrie aussi, puisque à Épinal, avant 1914, on a entre 300 et 400 cheminots qui travaillent à la gare. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se font manuellement. Hein. Et puis, on a énormément de locomotives à vapeur, etc. Enfin bon, ça demande beaucoup de main-d'œuvre. D'ailleurs, quand on se promène dans le coin au-dessus de la gare, quand je dis au-dessus, c'est à l'ouest de la gare, la rue Jean Jaurès et les rues qui sont au-dessus, Polygone, la Haie du Loup, etc. Au-dessus, on a des cités qui appartenaient aux compagnies de chemin de fer. Hein, c'est des cités cheminotes que l'on voit encore parfaitement. Bon, aujourd'hui, c'est des maisons privées, mais à l'époque, elles ont été construites effectivement pour loger un certain nombre de cheminots, comme on disait. Hein. Cheminots, ça vient de chemin de fer. Voilà. Et donc.
Du chemin de fer. Et s'il y avait tout ça, il fallait aussi qu'il y ait du charbon. Il y avait des gisements ou ça arrivait par train?
Non, alors justement le fait de la gare et le fait ensuite de la construction du canal de l'Esch vent sud, hein, qui part de la région de Toul, pour faire simple, hein, depuis la mare d'Aurin en direction de la Saône, hein, en passant par Golbey, Épinal, ça va permettre effectivement d'amener le charbon. On n'a pas de charbon à Épinal, bien que, on ait un gisement de charbon quand même à l'ouest du département, du côté de Juvincourt, Gémelincourt, qui a été exploité au 19e siècle, et même, je crois, au début du 20e siècle. Alors, c'est du mauvais charbon, hein, de très, très mauvaise qualité, mais il y en a quand même. Hein, rectifiant quand même les choses. Donc, sinon, effectivement, le charbon, il vient essentiellement après la guerre 70, puisque le gisement de charbon de Lorraine, en Moselle, est aux mains des Allemands. Donc, le charbon, ben, il vient de deux directions opposées. Il vient du nord, d'une part, et il vient du Massif central. Mmh. Hein. On a oublié quand même que le Creusot, Monceau-les-Mines, etc., Descazeville, et ainsi Carmeau, etc., c'est tous des gisements de charbon. Hein. Et puis, dans les Alpes aussi, du côté de la Mure, par exemple, gisements de charbon. Donc, pour transporter ce charbon, ben évidemment, on ne va pas atteler des paires de bœufs. Hein, ça serait... Et comme les industries, la grande industrie textile en particulier, mais la métallurgie, etc., a besoin de charbon, on va ramener ça à la fois par péniche, quand le canal sera construit, et puis par train. Hein. Il faut ajouter à ça que le charbon va servir aussi à autre chose. Il va servir à produire du gaz, et en particulier du gaz d'éclairage.
Oui, à l'époque.
Hein, gaz d'éclairage, donc gaz de ville, gaz d'éclairage. Hein, le premier éclairage public, c'est un éclairage au gaz. Hein, et donc, la ville va devenir une ville lumière, comme Paris, hein, grâce au gaz, et avec les réservoirs de gaz, avec une entreprise pour distiller le charbon, tout simplement, qui se trouvait, quai de Donneville, où se trouvent aujourd'hui encore les établissements, je vais dire, de ex-EDF Gaz de France, en face du port d'Épinal. Hein. Et il faut se souvenir d'ailleurs qu'il n'y a pas si longtemps encore, il n'y a même pas une quarantaine d'années, il y avait encore des transbordeurs pour les matériaux qui arrivaient par le port, pour aller vers les industries dont le gaz qui se trouvait le long du quai de Donneville. Hein. Donc voilà, et ça va servir aussi en même temps à produire l'électricité, etc., etc. Bon, donc c'est toute une industrie autour de ça qui va être facilitée par les moyens de transport. Mais à l'inverse, et c'est là où je voulais en venir, on est un peu long, à l'inverse, les administrations, contrairement aux administrations aujourd'hui, sont squelettiques. quand on parle d'un conseil général, quand on parle de la préfecture, quand on parle d'une mairie comme Épinal, c'est le nombre d'employés, c'est ridicule par rapport à aujourd'hui. C'est rien du tout.
Ça représente quoi ?
Oh ben, dans une ville, on va prendre, j'ai pas les chiffres en tête pour le département.
On était à 13 000 habitants à Épinal ?
À l'époque. Mais la ville d'Épinal, par exemple, les employés de la ville se réduisent à quoi ? Ça réduit à ce qu'on appelle des agents voyers, c'est-à-dire la voirie, en fait, hein, qui nettoie les rues, hein, qui ramasse les poubelles. Hein, et puis, des employés d'octroi, aussi, pour faire payer les marchandises à l'entrée et à la sortie de la ville. Et puis, c'est à peu près tout. Hein, tout le reste, c'est du privé. Hein, quand on parle des parcs et jardins, par exemple, aujourd'hui, tout ça est donné à des privés. Quand on va, au cours des années 1880-90, complètement transformer le parc du Cours, c'est une entreprise privée qui s'en charge. Hein. Donc, non, c'est tout petit. Je me suis toujours amusé à la mairie à montrer, alors ça n'existe plus maintenant parce que malheureusement, on a démonté des portes et on ne les a pas conservées, malgré mes efforts, mais enfin c'est comme ça. On avait juste à côté du grand salon, pour ceux qui connaissent la mairie d'Épinal, à côté du grand salon, quand on repart vers l'escalier de service, on avait une porte qui existe toujours, une porte avec une grande vitre, et sur cette vitre, c'était indiqué « Bureau des adjoints ». Et le bureau des adjoints, là, à cet endroit-là, il faisait quoi ? Il faisait, on va dire quoi, 4 mètres, 5 mètres carrés. Hein ? C'était le bureau des adjoints.
Ils ne devaient pas être nombreux.
Hein ? Ils n'étaient pas nombreux. non, mais on a une fausse représentation aujourd'hui parce que les administrations publiques ont pris une telle importance qu'on imagine, quand on parle de l'arrivée de la préfecture dans les Vosges, du conseil général, etc., ou des développements de la ville, on a l'impression qu'on va avoir des centaines de salariés.
Ouais, des bâtiments énormes avec des...
Arrivée, c'est pas ça du tout.
Ouais, d'accord.
En revanche, il faut chercher la main-d'œuvre dans l'industrie.
Et donc c'est cette industrie qui va permettre à la main-d'œuvre aussi de venir s'installer sur le bassin spinalien, à développer cette population. Alors si on a des ressources énergétiques qui proviennent du nord ou du sud, pour autant l'Alsace, le territoire convoité par l'Allemagne qu'elle va récupérer durant cette guerre de 70, va aussi récupérer des ressources énergétiques.
Alors, je rectifie, l'Allemagne ne récupère pas. Elle ne peut pas récupérer quelques...
Oui, s'approprie, tout à fait.
Elle s'approprie. Elle ne peut pas récupérer quelque chose qu'elle n'a jamais possédé en tant que tel, en tant que territoire. Parce qu'il faut se souvenir quand même que jusqu'en 1870, l'Allemagne en tant que telle n'existe pas. C'est une fédération d'États, hein, dominée certes par la Prusse, qui a pris son essor à partir du 16e, 17e siècle, et bien sûr au cours des guerres napoléoniennes, mais l'Allemagne, c'est une fédération ou une confédération d'États qui a été depuis le Moyen-Âge avec une unité qui était le Saint-Empire romain germanique, qui n'avait pas du tout d'ailleurs les limites de l'Allemagne de 1870 ou de 1914, hein, puisque le Saint-Empire romain germanique a été dissous par Napoléon. Enfin, bref, ça nous emmènerait trop loin, on va s'arrêter là. Mais c'est une fédération d'États, avec des princes souverains et avec des villes souveraines. Hambourg, par exemple, Brême, ce sont des villes libres. Mmh. Hein. Ce sont des États-villes. La Bavière, on se souvient du roi de Bavière, hein. Louis II de Bavière, c'est un royaume, hein, dont est issue Sissi, Élisabeth.
Mais on peut se surprendre, du coup, on peut être surpris avec la définition et le détail que vous nous donnez de cet empire ou de ce territoire germanique, de ce que la guerre ait pu naître, puisqu'il y a finalement une tension qui s'est créée, qui va faire que, et vous le rappelez, c'est la France qui déclare la guerre à cet empire germanique.
Pas l'empire, hein.
Oui, c'est pas encore l'Empire, oui.
On déclare la guerre à la Prusse, en fait.
À la Prusse. Hein? Et la Prusse, elle est où? Elle est loin géographiquement, voilà.
Ben, elle est loin, oui. La Prusse, c'est autour de Berlin. Hein?
C'est ça.
Hein? Mais, et au-delà, hein? Et mm-hmm. au-delà, puisqu'on va jusqu'en la Pologne aujourd'hui. Hein? Donc, on va même jusqu'à la Russie aujourd'hui, avec Kaliningrad aujourd'hui, Königsberg, hein? Le fief des chevaliers teutoniques. Mm-hmm. Donc, c'est très loin. Mais la Prusse va fédérer autour d'elle, va fédérer les États. C'est-à-dire que, par exemple, quand on parle du pays de Bade, c'est un grand-duché. Hein? La Hesse est indépendante, les deux Hesse, hein, etc., etc. Donc, on a toute une série d'États qui vont s'allier à la Prusse, qui vont s'allier.
Donc, finalement, et cette guerre va susciter la formation de la future Allemagne.
Et oui, et du fait de la domination de la Prusse, ben, finalement, la Prusse va réussir à faire l'unité allemande, donc en 1871, hein, dans la grande galerie des glaces à Versailles, où on va proclamer le Deuxième Reich, avec comme souverain, comme empereur, le roi de Prusse. Le roi de Prusse, Guillaume, devient Guillaume Ier d'Allemagne, empereur d'Allemagne. Donc, Deuxième Reich.
Et ça s'est signé en France.
Et ça s'est signé en France.
À Versailles.
Absolument.
C'est intéressant de voir les petits clins d'œil de l'histoire.
Oui, mais le clin d'œil suivant, c'est 1918-1919, avec le traité de Versailles en 1919, qui est signé à la Galerie des Glaces à Versailles.
Pour récupérer les territoires. Cette fois, pour récupérer les territoires.
Voilà. Hein, mais c'est symbolique.
Bien sûr, ah, toujours comme la signature de Vichy, etc. Il y a toujours des petits clins d'œil qui sont faits au passé.
Ah ben oui, mais puis les gens à l'époque, les choses vont beaucoup moins vite, il n'y a pas de réseaux sociaux, et les gens connaissent probablement beaucoup mieux leur histoire que nous aujourd'hui. Hein, c'est quelque chose qui leur parle, parce que ça leur parle de leur quotidienneté.
Effectivement, vous avez raison. Eh bien, ce que je vous propose, Jacques Grasser, c'est qu'on puisse se retrouver très prochainement pour poursuivre autour de cette période de l'histoire dans une nouvelle émission de notre série. Et pour cela, je vous dis à très bientôt sur notre fréquence. Et je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur notre site internet. À très bientôt.